VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerrier, Eric Manirakiza, votre compagnie. Bienvenue à cette édition du vendredi 16 octobre 2015. Au sommaire ce soir.
Et des dizaines de morts au Nigeria dans une série d'attentats suicides attribués au groupe islamiste Boko Haram.
Le président guinéen sortant Alpha Condé s'achemine vers une réélection au premier tour, mais l'opposition promet de contester les résultats par tous les moyens.
Des Palestiniens ont mis le feu au tombeau de Joseph, vénéré par les Juifs en Cisjordanie occupée. Plusieurs Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens.
Et dans moins de 10 minutes, Morgane, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
En Guinée, le président sortant Alpha Condé s'acheminait ce vendredi vers une réélection au premier tour de la présidentielle, déjà récusée par l'opposition qui crie à la fraude et prévoit de la contester par tous les moyens autorisés, y compris les manifestations. La communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme inquiètent du risque de violence post-électorale fréquente en Guinée, exhortent les candidats à régler leur litige devant les tribunaux et non la rue.
Et au Nigeria, au moins 3 femmes kamikazes se sont fait exploser dans la banlieue de Maïdougouri, tuant au moins 4 personnes. Les détails avec Michel Joseph.
Les explosions de ce matin à l'aube ont eu lieu après 2 attentats suicides qui ont fait une trentaine de morts dans une mosquée de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno. Selon les responsables de services de secours, les explosions à la mosquée ont été programmées de telle sorte que la seconde a tué beaucoup de personnes volant au secours des victimes de la première. Des dizaines de personnes ont été également blessées. On soupçonne Boko Haram d'être responsable de cette vague d'attentats suicides dans le nord-est du Nigeria. Les militants islamistes nigérians ont lancé plusieurs attaques transfrontalières dans la région. Et mercredi, le président Barack Obama a annoncé l'envoi de militaires américains au Cameroun pour des missions de reconnaissance aérienne en appui aux efforts conjoints du Nigeria, du Tchad, du Cameroun, du Bénin et du Niger pour éradiquer la menace Boko Haram. Selon Amnesty International, ce groupe a tué au moins 1600 civils depuis le début de juin et plus de 3500 en 2015.
Premier point de presse à Ouagadougou sur l'affaire Thomas Sankara et le putsch manqué. Le colonel Sita Sangaré, directeur de la justice militaire en charge de l'instruction de ces 2 dossiers, a annoncé des inculpations dont le général Gilbert Diendéré poursuivi pour 11 chefs d'accusation, dont celui de crime contre l'humanité. Il risque la peine de mort. La justice militaire n'exclut pas de lancer des poursuites contre l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, dans l'affaire de l'assassinat de l'ex-président Thomas Sankara, auquel il a succédé en 1987 à l'issue d'un putsch. Les précisions de Zoumana Ouenogo.
Ce premier point de presse du nouveau directeur de la justice militaire a épousé les formes habituelles des conférences de presse. Une longue déclaration liminaire, puis la séance des questions-réponses. À ce jeu, le colonel Sita Sangaré, qui sait très bien marcher sur des œufs, a finalement lâché quelques bribes d'informations capitales sur les 2 dossiers en sa charge, à savoir l'affaire Thomas Sankara et le putsch manqué. Ainsi, sur le dossier Thomas Sankara, 8 personnes ont été inculpées. Et comme tous les regards sont tournés vers Blaise Compaoré dans ce dossier Thomas Sankara, le directeur de la justice militaire a précisé que pour le moment, l'ancien président du Faso n'est pas poursuivi. Concernant les putsch manqués, il y a 23 inculpations. Là, il a lâché des noms, comme ceux du général Djibril Bassolé, des hommes politiques de l'ancienne majorité, Léonce Kone et Herman Yamehogo. Tout naturellement, le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, est poursuivi pour 11 chefs d'accusation, dont celui de crime contre l'humanité qui peut l'envoyer à la CPI. Zoumana Ouenogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Signalons aussi que le domicile à Ouagadougou de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et ancien chef de la rébellion ivoirienne soutenue par le Burkina Faso, a été perquisitionné. C'est dans le cadre de l'enquête sur le putsch raté du 17 septembre au Burkina, selon le directeur de la justice militaire, le colonel Sita Sangaré.
Et République centrafricaine, retour au calme dans le troisième arrondissement. Après une nuit de violence, au moins 3 personnes auraient trouvé la mort et près d'une dizaine d'autres blessés. Aujourd'hui, la MUNISCA a repris le contrôle de la situation. Le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
Aux environs de 17h locales, des tirs à l'arme lourde et légère ont éclaté dans les quartiers Castor et Yakité et ont duré plusieurs heures. Selon des témoins, il s'agit en fait d'un accrochage entre hommes armés rivaux, notamment anti-balakaï musulmans armés de PK5, accrochage qui serait déclenché suite à l'attaque à la Kalachnikov d'un groupe de jeunes musulmans qui jouaient au football sur un terrain non loin du pont Yakité par des inconnus. Ce vendredi, les deux groupes armés se rejettent la responsabilité des hostilités. Almiri Matar, alias Force, responsable du groupe d'autodéfense de PK5, a affirmé qu'ils n'ont fait que répondre à une attaque des miliciens anti-Balaka. Accusation rejetée par le sergent-chef Junior Bayo comme zone des anti-Balaka du secteur, parlant d'une simple machination. La force de la MINUSCA qui a pu départager sous la pluie battante de ce jeudi soir, les belligérants a indiqué aujourd'hui avoir repris la situation en main et que le calme est revenu dans ces quartiers. Dénonçant cette nouvelle violence, le porte-parole du gouvernement, Dominique Saïd Pagindi, a précisé que des mesures judiciaires internationales sont en cours afin de rattraper les auteurs de la crise que traverse le pays. Le bilan de cette nouvelle tension n'est pas encore disponible. À en croire certaines sources, 3 personnes auraient trouvé la mort et près d'une dizaine d'autres blessés, en plus de déplacements massifs des habitants. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
L'ex-rébellion du nord du Mali et ses rivaux de groupes armés pro-gouvernementaux qui se sont violemment affrontés en août ont annoncé jeudi soir avoir scellé la paix après plusieurs jours de pourparlers, a précisé l'AFP.
Et toujours sur le Mali, la France va octroyer environ 300 millions d'euros supplémentaires d'aide au Mali entre mi-2015 et fin 2017. C'est notamment pour le développement du nord du pays. La France présentera cette nouvelle aide lors d'une conférence de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, pour la relance économique et le développement du Mali, jeudi à Paris.
Selon l'AFP, l'engagement de troupes américaines au Cameroun devrait aider les pays de la région du lac Tchad en lutte contre Boko Haram à combler l'une de leurs principales lacunes, le renseignement face à des islamistes multipliant les attentats.
Et l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Thomas Pereiro, a appelé le gouvernement du Burundi à engager un dialogue inclusif et honnête, y compris ceux qui sont en exil en dehors du pays. Ceci pour trouver le chemin de la coopération économique, le développement et la démocratie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouveau drame à Calais en France. Un migrant est mort hier dans l'Eurotunnel en tentant de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Les détails sur place avec Nicolas Pinault.
Oui, le drame s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Il était 2h15 du matin sur le site d'Eurotunnel. Un train de marchandises arrivant d'Angleterre est arrivé sur le site. C'est à ce moment-là que le migrant a essayé de monter sur ce train. Et malheureusement pour lui, il a été happé par le train. Les secours sont formels. Impossible de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, tant le corps a été déchiqueté par ce train. Malheureusement, il s'agit de la 16e personne qui est décédée en tentant de traverser le tunnel sous la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Déjà, mercredi soir, une femme avait été écrasée par une voiture, toujours sur ce même site, cette fois sur l'autoroute. Et on rappelle qu'à côté de ce site de Eurotunnel, il y a ce fameux site appelé la jungle, dans lequel s'entassent 4 à 5 000 personnes qui espèrent toutes pouvoir traverser et se rendre en Angleterre. Depuis Calais en France, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
Guerre en Syrie, le régime de Bachar al-Assad a lancé aujourd'hui une vaste offensive près d'Alep pour reprendre une autoroute reliant les grandes villes du pays. Deux villages au sud de la ville auraient été récupérés, indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme, précisant que l'opération a été appuyée par l'aviation russe.
Et des protestataires palestiniens ont incendié des parties du tombeau de Joseph en Cisjordanie. C'est ce qu'ont annoncé les officiels israéliens ce vendredi de la révolution appelée par les groupes palestiniens. Idrissa Seloudia.
Une centaine de Palestiniens ont usé de cocktails Molotov pour brûler ce lieu sacré juif à Naplouse. Ils ont été dispersés par les forces de sécurité palestiniennes qui ont ensuite éteint l'incendie. l'armée israélienne prendra toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs de cet acte méprisable et restaurer le site et faire en sorte que la liberté de culte revienne au tombeau de Joseph, a dit le porte-parole Peter Lerner. Un tel acte est une insulte à notre culture, notre religion et nos valeurs morales, a déclaré de son côté le président palestinien Mahmoud Abbas, en promettant de former immédiatement une commission d'enquête. Aujourd'hui, et selon l'AFP, citant les autorités de la bande de Gaza, un Palestinien a été tué par des tirs israéliens lors de heurts près de la frontière avec Israël. Depuis deux semaines, une série d'attaques perpétrées par les Palestiniens, essentiellement des agressions à l'arme blanche, ont coûté la vie à 7 Israéliens et au moins 31 Palestiniens ont été tués par l'armée et la police israélienne, certains pendant des manifestations et d'autres pendant ces agressions.
En Irak, les forces de sécurité se rapprochent de Baïji, à 200 km au nord de Bagdad.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Dili Diko.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eh bien, en l'absence de la Minute Éco, je pense qu'on peut passer au sport avec Timothée Donangmaï avec nous en studio.
Tout à fait, Morgane, Tim qui est l'amoureux du football et c'est d'ailleurs la une de ces nouvelles, Tim, c'est le coup d'envoi demain au Chili de la Coupe du Monde des moins de 17 ans.
Eh oui, Eric, on aura droit à deux matchs demain. Nigeria, États-Unis dans le groupe A et Royaume-Uni, Guinée dans le groupe B. Dimanche, le Mali défendra les couleurs africaines. Ce sera face à la Belgique dans le groupe D, pendant que l'Afrique du Sud en découdra lundi avec le Costa Rica.
Et Tim, tu n'oublies pas le Mondial 2015 de rugby qui se poursuit ce week-end en Angleterre avec les quarts de finale.
Et non, Eric, demain, l'Afrique du Sud joue contre le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande croise la France. Dimanche, ce sera au tour de l'Irlande d'affronter l'Argentine, suivi du choc Australie-Écosse.
Et Morgan, Tim, il est spécial avec son amour au football. Mm-hmm. Il revient sur l'UEFA. Michel Platini, qui est apparemment en difficulté.
Et oui, Eric, le soutien de l'UEFA à son président dans sa quête de la présidence de la FIFA commence à se lézarder moins de 24 heures après cet appui unanime de la Fédération européenne de foot à Platini. La Fédération anglaise de foot a annoncé aujourd'hui avoir suspendu son soutien. Pour rappel, Eric, Michel Platini a été suspendu pour 90 jours par la FIFA pour un paiement de 1,8 million d'euros reçu du président démissionnaire de la FIFA, Sepp Blatter, lui aussi suspendu. S'exprimant aujourd'hui pour la première fois sur cette affaire, Blatter a dit dans une interview à la chaîne suisse RRO TV qu'il s'agissait d'un accord sur l'honneur, un gentleman's agreement avec Platini et qui a été mis en œuvre.
Une bonne bourse en tout cas. Nouvelles allégations de corruption contre la FIFA, Tim.
Eh oui, Eric, ça n'en finit pas. Cette fois-ci, c'est l'hebdomadaire allemand Der Spiegel qui soutient que la candidature de l'Allemagne à l'organisation de la Coupe du Monde 2006 avait été appuyée par une enveloppe de 6,7 millions d'euros en faveur de membres du comité exécutif de la Fédération internationale. La Deutsche Fußballbund, la fédération allemande, a dit avoir ouvert une enquête, reconnaissant tout de même le versement de ces fonds en avril 2005 à la FIFA, tout en assurant que ces fonds n'étaient pas liés à l'attribution du Mondial 2006.
Et le club tunisien se sépare de son entraîneur français, Daniel Sanchez.
Et oui, le club africain champion de Tunisie prend cette décision après seulement 5 journées et l'accusant défaite 2-0 mercredi face au rival de l'Espérance de Tunis. Sanchez est remplacé par un ancien entraîneur adjoint de l'équipe, Nabil Kouki, qui lui vient de passer plusieurs mois au Soudan.
Mmh. Un monde de tennis avec les résultats des quarts de finale du tournoi ATP de Shanghai disputé aujourd'hui, Tim. C'est Novak Djokovic qui défait Bernard Tomic en 2-7. Merci Tim.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriac et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Eric, votre pays, le Burundi.
Oui, Morgane, le parti présidentiel accuse des pays colonisateurs d'être derrière la violence qui s'écoule au pays depuis plus de 4 mois. Et dans le communiqué lu à la radio-télévision nationale, le porte-parole du CNDD-FDD, Gelaz Daniel Ndawirabe, ces pays coloniaux achèteraient des armes aux criminels tuant de paisibles innocents dans les quartiers contestataires. Mais d'après le président de l'Alliance des démocrates pour le changement, c'est Léonce Ngendakumana, ces allégations sont un suicide pour le pays. Le point avec Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
Le porte-parole du parti qui est au pouvoir depuis 2005, Gelaz Daniel Ndawirabe, a annoncé à la radio-télévision nationale que les pays colonisateurs achètent des armes et les distribuent à ceux qu'ils qualifient de criminels. Ces derniers seraient ceux qui sèment le chaos dans ce petit pays de 27 834 km² depuis le mois d'avril 2015. Le mois où le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature et que les manifestations contre son troisième mandat ont débuté dans bon nombre de quartiers de la capitale, Gelaz Ndawirabe.
Des assassinats sélectifs sont observés. Sans aucun doute que ces assassins terroristes sont matériellement et financièrement appuyés par certains pays néocolonialistes en soutenant les tueurs. Ils sont en train de réaffirmer aux yeux des démocrates burundais que l'usage de l'élément ethnique est un instrument qui leur permettra de diviser, de détruire le pays et mettre sous les rênes du pouvoir qui ils veulent pour leurs intérêts.
Pour Gelaz Ndawirabe, ces pays colonisateurs continuent de semer le chaos qu'ils ont installé depuis les années 60. Avant l'indépendance du Burundi.
Et ces ennemis de la paix sont soutenus par des pays colonisateurs qui ne souhaitent que le Burundi soit uni, ce qui signifie qu'ils veulent ramener le Burundi sous la colonisation.
Cette femme qui travaille à Bujumbura indique que les propos de Gelaz Ndawirabe devaient être normalement prononcés par des responsables diplomatiques du Burundi.
Je ne suis ni pour ni contre les déclarations qu'il a faites. Mais est-ce qu'il a fait les investigations qu'il faut? Il a les preuves pour dire ça? Est-ce qu'il a compté le pour et le contre? Est-ce qu'il a pensé aux conséquences que ça pourrait avoir sur notre économie si maigre, un pays comme le Burundi qui survit de l'étranger?
Pour ce politicien qui s'insurge contre ceux qui violent les accords d'Arusha et la Constitution, les déclarations du parti présidentiel n'augurent rien de bon pour la paix au Burundi, même dans la région des Grands Lacs. Le président de l'ADC Ikiviri, Léonce Ngendakumana.
Je dois dire que c'est un suicide pour le Burundi. Il ne faut pas parler du porte-parole du parti CNDD-FDD, il faut parler plutôt de l'ex-président du Burundi, Pierre Nkurunziza. C'est lui qui est à la tête de tout cela, car après avoir détruit les piliers de la paix et de la réconciliation au Burundi, ça c'est l'accord d'Angers, la constitution, après avoir détruit les piliers de la démocratie, les partis politiques, la société civile, les médias, maintenant en s'attaquant violemment à la communauté internationale, particulièrement aux colonisateurs, l'ex-président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, vient de consacrer l'isolement du Burundi.
Depuis le début de la crise, plusieurs pays donateurs européens ont gelé leur aide avec l'annonce du troisième mandat de Pierre Nkurunziza, critiqué par la communauté internationale. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Selon la presse ivoirienne, il y a peu d'engouement jusqu'ici de la part des électeurs pour aller retirer leur carte électorale, sachant que demain est le dernier jour pour ce faire. Nathalie Barge a joint à Abidjan le porte-parole de la CENI, Victoire Allé, qui dit ne pas avoir de statistiques sur le nombre d'électeurs ayant récupéré leur carte.
Le premier facteur, c'est ce sentiment de « à quoi bon ?». On a une élection où il y a de toute évidence un super favori qui est le candidat au pouvoir, le président sortant, et il y a les autres. Donc les gens se disent que ça ne sert à rien de perdre son temps à aller faire une élection qui est gagnée d'avance. Et je pense que même dans la communication qui est faite au niveau du parti au pouvoir, même dans la bouche du porte-parole du gouvernement, on a déjà entendu ces phrases-là. Quand les populations, la population, le lecteur ou les citoyens lambda entendent dans la bouche du porte-parole du gouvernement, c'est une élection que nous avons déjà gagnée. ils considèrent que c'est un, j'allais dire, un décret qui est ainsi rendu public. Donc il y a un ensemble d'éléments, notamment les mots d'ordre de boycott qui sont donnés par certains partis d'opposition tels que le Front Populaire Ivoirien. Troisièmement, on peut prendre appui sur le fait qu'il y a des mots d'ordre contradictoires qui sont donnés. Par exemple, l'un des candidats parmi les plus connus, le professeur Mamadou Koulibaly, eh bien, a dit qu'il engagerait une action de campagne, une campagne en faveur du boycott des élections. Certains candidats se retirent, tels que le président, le ministre des Affaires étrangères, Siamara. Tout ça envoie des signaux négatifs, dissuasifs, j'allais dire des touches froides dans le dos des électeurs.
Mais vous, en tant que défenseur de la démocratie, justement, est-ce que vous ne conseillez pas aux électeurs d'aller voter? Parce que, bon, la démocratie commence également par les urnes. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen de tenter sa chance?
Oui, certainement. Il y a une sensibilisation à faire de ce point de vue. Mais, vous savez, la société civile, quels que soient les acteurs qui interviennent, ils peuvent faire cette sensibilisation, tenter de la faire. Mais si, comme je dis, des messages différents sont donnés par la classe politique dans son ensemble, ou du moins dans ses composantes très importantes, c'est comme si vous voulez faire des coups d'épée dans l'eau. Effectivement, on serait tenté de demander aux Ivoiriens de prendre leur courage à deux mains pour donner une chance à la démocratie et donner une chance à l'expression des suffrages individuels qui, combinés, mis tout à bout, peuvent changer la donne.
On a l'impression d'assister de plus en plus en Afrique à des leaders politiques qui, au lieu de mobiliser leurs partisans, les démobilisent en quelque sorte. Mais quel regard portez-vous sur cette attitude de penser que c'est toujours perdu d'avance?
On pourrait dire que en Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, on n'a pas une tradition d'abord de participation populaire. Deuxièmement, le traumatisme des élections de 2010 reste encore dans le fond des crânes, dans le fond des têtes. Mmh. Les gens ont encore ce traumatisme-là. Et puis, troisièmement, il y a la peur qui sévit en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se le cacher. Chacun de nous vit dans l'anxiété quelque part, d'une façon ou d'une autre. Il y a une certaine démobilisation due au fait que les gens se disent que l'état de droit n'est pas encore effectif et donc ça ne sert à rien qu'on aille s'exposer la poitrine pour dire des choses auxquelles personne ne croit. Mais c'est un processus.
C'était Victor Allé, le porte-parole de la CENI en Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
La fièvre hémorragie Ebola refait surface en Guinée à l'heure où le pays a toute son attention focalisée sur l'après-premier tour de la présidentielle. De nouveaux cas d'infection par le virus ont été détectés par l'Organisation mondiale de la santé. Le premier, une femme, a été enregistré à Ratoma, dans la banlieue de Conakry. Le second, décelé lors d'analyse post-mortem sur un homme dans la région de Forêt-Caria. Le retour d'Ebola en Guinée déçoit-il les acteurs engagés dans la lutte contre la maladie? C'est l'une des questions que Jacques Aristide a posées au docteur Pierre Rollin, spécialiste des maladies infectieuses au Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, les CDC.
Bon, c'est toujours décevant de voir que l'épidémie n'est pas terminée, mais très souvent on peut s'attendre à ces petits accidents en fin de parcours. C'est toujours difficile de terminer une épidémie, surtout quand elle a une répartition géographique aussi importante.
Faut-il craindre une nouvelle propagation de la maladie, surtout par rapport aux autres pays concernés ?
Non, le Liberia est à l'heure actuelle indemne, la Sierra Leone est en bonne voie, ils ont déjà dépassé un certain nombre de jours et normalement, si tout se passe bien, l'épidémie devrait être déclarée et terminée par l'Organisation mondiale de la santé le 8 ou le 9 novembre. Il n'y a pas vraiment de risque d'une grosse épidémie qui repart.
La Guinée n'avait pas connu de nouveaux cas depuis deux semaines, ce qui avait suscité un espoir très fort de voir le pays débarrassé d'Ebola. Y a-t-il eu un certain relâchement de la part des autorités ?
Non, je ne peux pas dire que ça soit le cas. Je crois qu'il y a une fatigue générale de la population qui en a assez aussi. et quelquefois ne respectent pas les recommandations.
Nous avons appris cette semaine que des travaux menés en Sierra Leone ont montré que le virus peut rester présent dans le sperme 9 mois après l'infection. Cela veut dire qu'il faut donc rester très vigilant pour le moment.
Donc, il faut rester très vigilant, mais cette étude a montré qu'on peut détecter du virus, mais on n'a pas encore les résultats pour savoir si c'est du virus vivant. Donc il faut que les sujets hommes qui ont survécu prennent des précautions et évitent de transmettre la maladie pour certainement plusieurs mois. Mais il faut quand même reconnaître que cette transmission sexuelle, elle existe, elle est possible, mais elle est très rare parce qu'on a des milliers d'hommes qui ont survécu dans cette épidémie. Et on a vraiment très peu de cas, ça se compte avec les doigts d'une main quasiment.
Bref, l'Ebola continue à sévir en Afrique de l'Ouest. Pensez-vous que cette région va finalement pouvoir vraiment se débarrasser de cette maladie ?
Oh oui, ça c'est une question de semaines. Le problème c'est que chaque fois qu'il y a un cas qui passe à travers le filtre, ça repousse de 15 jours et de 15 jours et de 3 semaines et ça continue comme ça. Mais encore une fois, le nombre de cas est vraiment très très limité.
Le docteur Pierre Rollin des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis était joint à Atlanta.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Suite de notre série sur les migrants en Europe, des milliers d'Africains secourus au large des côtes libyennes sont acheminés régulièrement vers la Sicile. Une fois débarqués, un nouveau long périple les attend. C'est le reportage de l'envoyé spécial de VOA Afrique en Italie, Nicolas Pino.
Le regard un peu perdu des enfants érythréens et leurs parents descendent lentement du navire Enterprise. Ce bateau de la marine britannique les a secourus ainsi que 650 autres migrants en Méditerranée. Comme eux, des milliers de migrants débarquent en Sicile depuis plusieurs mois. À leur arrivée, ils sont temporairement hébergés dans des centres fermés de l'île. C'est dans ces premiers jours que va se déterminer la suite de leur aventure européenne. S'ils acceptent de faire enregistrer leurs empreintes digitales en Italie, ils entrent dans le règlement Dublin. Ce texte, adopté en 2013, prévoit qu'un réfugié doit déposer une demande d'asile dans le premier pays dans lequel il est arrivé et y rester jusqu'à son examen. Beaucoup ne le savent pas encore, mais cette décision, une fois arrivée en France, en Allemagne ou en Suède, peut les contraindre à devoir retourner en Italie s'ils se font arrêter. Après la Sicile, les migrants sont envoyés vers Rome ou Milan. À leur descente de bus, c'est chacun pour soi. Officieusement, les autorités italiennes se débarrassent de ces personnes qui n'ont pas pour ambition de demander l'asile en Italie. Les transporter dans le nord du pays, c'est la garantie de les voir quitter plus tôt l'Italie. Alassane Seydi connaît bien le problème. Cet ancien journaliste sénégalais est aujourd'hui médiateur culturel. Il intervient régulièrement auprès des migrants sur Milan.
Pas seulement à Milan, dans beaucoup d'autres régions, même en Italie. Ils sont mis dans des bus, on les amène jusqu'à destination. Il n'y a pas d'accueil, il n'y a personne qui est là pour quand même le dire voilà ce qu'on doit faire de vous. Il n'y a rien, on les débarque et les bus retournent. Donc ils sont laissés à leur propre sort. Mais c'est ce qui intervient en généralement ici, ce sont les associations, c'est la Caritas, l'Église quand même qui franchement a beaucoup contribué quand même à la prise en charge de ces gens.
Derrière la gare centrale de Milan, un centre de jour accueille les migrants avant qu'ils ne soient acheminés vers d'autres structures pour passer la nuit. Fabio Passiani de la fondation Progetto Arca qui gère ce centre.
C'est un transit ici. Les migrants restent en moyenne 4 à 5 jours, puis ils s'en vont. Il y en a même qui partent 24 heures après leur arrivée.
Plus de 137 000 personnes sont arrivées en Italie par bateau depuis début 2015. Nicolas Pino, Milan, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. Présentation, Morgane Guiriec et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Et tout de suite, Morgane.
Les nouvelles.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.